talmudique. Kafka écrit dans son journal « Je me suis écouté un instant de l'intérieur et j'ai perçu incidemment quelque chose comme le miaulement d'un jeune chat. » Et un peu plus loin, il ajouta cette notation « Tout homme porte un secret en lui. C'est un fait qui peut même se vérifier à l'oreille. Quand un homme marche vite et que l'on écoute attentivement, la nuit peut-être, tout étant silencieux alentour, on entend par exemple le brimballement d'un miroir qui n'est pas bien fixé au mur. » Phrase extraordinaire qui nous invite à penser qu'au plus profond de chacun d'entre nous, un miroir fragile nous renvoie notre image la plus intime et cette image possède la voix discrète et timide d'un petit chat qui miaule. Un petit filet de voix proche de cette voix de fin silence dont parle la Bible à propos de la voix de Dieu dans le livre des Rois. Mais que nous dit ce petit chat? Kafka n'a rien dit à ce sujet et je pense savoir pourquoi. Il n'a rien dit, car il savait qu'un siècle après lui viendrait un artiste, comme lui, passionné par l'écriture et le dessin, qui révélerait au monde les secrets de la parole du petit chat. Et c'est à l'histoire du parcours de cet artiste et à l'exposition que l'on peut voir jusqu'au 12 mai prochain au musée d'art et d'histoire du judaïsme qu'est consacrée l'émission d'aujourd'hui. Johann Svar, bonjour.
Bonjour.
Johann Svar, c'est la 5e exposition que le Mage consacre à la bande dessinée, où vous étiez déjà présent dans la première, qui s'intitulait « De Superman au chat du rabbin », c'était en 2007. Quel sens a pour vous cette exposition, au sens fort de ce mot, c'est-à-dire de s'exposer et de faire entendre, comme dit Kafka, le brimballement de votre miroir intérieur qui n'est pas bien fixé au mur, alors que tout dans cette exposition, qui est aussi et d'abord une rétrospective de votre travail jusqu'à aujourd'hui, semble justement si bien fixé au mur. Johann Svar.
Je dois dire qu'avant tout, comme visiteur, je suis un partenaire de longue date du musée d'art et d'histoire du judaïsme, puisque son objet me semble consister à faire participer la voix juive à la polyphonie française ou à la polyphonie européenne en temps d'élection. Mais il me semble que mettre les voix juives au milieu des autres voix, ouvrir une institution juive à tous les publics, c'est le meilleur moyen d'éviter les contresens et de continuer la conversation. Donc je suis ravi d'y voir mes petits dessins au mur, mais même en tant que spectateur, en tant que visiteur, c'est une institution à laquelle je suis très attaché.
La voix intérieure du petit chat est toujours timide et discrète.
Oui, je ne sais pas ce que c'est que ce chat. Il existe vraiment, en tout cas dans ma tête. Il commence à exister dans la tête des lecteurs depuis 25 ans. Et je ne sais pas si c'est une part de moi. Je ne sais pas si c'est ce que je m'imagine d'un génie, d'un, on aurait dit le daimon chez Platon. Mais ce n'est pas imaginaire. C'est un point de vue sur l'existence. Peut-être comme dans Le Petit Prince, quand l'aviateur discute avec le Petit Prince. La vraie question mono ou polythéiste, c'est est-ce que ça vient de nous ou est-ce que ça vient d'ailleurs? Toujours est-il que, peut-être chez les Juifs encore plus, on a besoin d'être en dialogue perpétuel.
En dialogue perpétuel que vous êtes avec vos lecteurs. Alors le livre, en tant qu'objet, a une place privilégiée dans votre vie dessinée. Car si vous êtes bien un dessinateur, ce n'est pas une œuvre de peintre que vous proposez, mais une œuvre de bande dessinée dont la transmission passe essentiellement, on pourrait dire ontologiquement, par le livre. On a l'impression, Johann Svar, que pour vous, le livre est ce qui ouvre à une foi qui, dans le judaïsme, n'est pas d'abord une foi en Dieu, mais une foi dans le livre, une confiance que le livre est l'une des portes fondamentales de la transcendance. Que signifie l'objet livre pour vous, Johann Svar?
Grâce à Marc-Alain Wachnin, entre autres, j'ai appris la nécessité de mettre dans les phrases de l'air, du jeu, du commentaire. Et ce qui me plaît dans la pratique des bandes dessinées, c'est qu'elle n'a rien de sacré. C'est l'inverse de l'idolâtrie. C'est on utilise le texte dans une espèce de transgression permanente pour créer discussion. Une jeune fille m'a dit il y a un an, comme quoi il m'a fallu le temps, m'a dit « Mais monsieur Svar, finalement, les bandes dessinées, est-ce que c'est pas de l'oralité ?» Et j'y avais jamais pensé. Elle a raison. Ce sont des personnages qui parlent, l'écrit est presque accidentel, ça pourrait être des notes pour un théâtre qu'on fera jamais.
Mais pourtant, vous insistez sur le fait que ça fasse un livre. Je pense à cette citation dans Les Idolâtres, qui est votre dernier ouvrage, où la psy vous demande au sujet de votre mère, c'est un manque ou c'est un vide, et vous répondez, je préférerais consacrer un livre au dessin. Vous ne dites pas, je préférerais dessiner, mais consacrer un livre au dessin. C'est le livre qui a une place vraiment privilégiée. Dans quel sens?
Parce que c'est une prise de pouvoir. Dans un livre, je décide qui meurt et qui vit. Je décide du moment où ça se termine. On sait bien que c'est pas vrai, mais c'est comme quand Lubitsch décide dans To Be or Not To Be d'assassiner Hitler en 1941. On sait bien qu'Hitler est pas mort à cette date-là, mais c'est une prise de pouvoir du dramaturge. Donc moi, ayant perdu ma mère avant l'âge de 4 ans et n'ayant rien compris à sa disparition, le dessin m'a permis de continuer d'exister. La vraie question des idolâtres, c'est est-ce que mes rabbins avaient raison ou pas en disant que la représentation recèle des pièges, des dangers. Je me rappelle, on avait la visite dans mon Talmud Torah quand j'étais petit du grand rabbin Sirat, du grand rabbin de France, qui était un type extraordinaire. Et il venait nous parler d'idolâtrie. Il disait, mais qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? Alors, on disait, c'est le veau d'or, c'est quoi? Non! L'idolâtrie, c'est Johnny Hallyday. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Johnny Hallyday? Il a fait qu'à un moment, si ça devient plus important que votre propre vie, c'est un problème. Et il disait, c'est pour ça que sur les tombes juives, on met pas une photo. C'est pas qu'on interdit la photo, c'est que vous allez résumer toute une vie à une image. Et moi, qui ne vis que par les images, je suis mieux placé qu'un autre pour savoir le danger qu'elle recèle. Et en particulier, dans les périodes qu'on vit en ce moment, avec le conflit au Proche-Orient, avec des choses comme ça, on voit bien comment une photo ou une image peut changer l'idée qu'on se fait du drame de deux peuples. Qu'est-ce que c'est qu'un drame? Un drame, c'est quand tout le monde a un peu raison et qu'on finit par se tuer à cause de ça. Et donc les images, je vais pas me les interdire, mais la photographie et un dessin, c'est pas pareil. Mais il y a mille manières de faire des images. Et c'est ma façon, comme quand une huître fait une perle, de faire de la nacre autour d'une blessure à ma manière.
J'ai parlé d'une rétrospective. Parcours est aussi un bon terme. Un parcours qui commence dans votre ville de naissance, en 1971, et se termine avec des planches de votre dernier ouvrage, de vos derniers ouvrages, il faudrait dire, deux livres essentiels, le 12e tome du Chat du Rabbin, intitulé « La traversée de la mer Noire », et la suite de votre autobiographie, commencée dans le volume intitulé « La synagogue », suite de votre autobiographie, aurait dit la philosophe Sarah Kaufman, qui était intitulé, on vient d'en parler, « Les idolâtres ». Un double événement éditorial. Que ressentez-vous à la naissance d'un nouveau livre après avoir publié plus de 220 volumes, Johann Svar?
Moi, je suis comme une cantatrice, j'ai toujours peur qu'il n'y ait pas de public dans la salle. Donc quand j'écris, j'écris très librement. Et quand ça sort, j'ai toujours la terreur que ça se vende pas. Enfin, je me dis, mince, est-ce que c'est ma dernière danse? Enfin, je me dis ça depuis longtemps. Là, par chance, ça se passe bien. J'ai choisi de faire des autobiographies thématiques, parce que je suis assez nul en scénario, mais les dissertations, je sais faire. Donc, la synagogue, c'était sur la virilité, l'exemple paternel. Les idolâtres, c'est sur la mère. Mais comme a dit un confrère journaliste, il dit, quand même, tu te fous de nous, c'est sur ta mère et on la voit pas. Bah, forcément, elle est morte. Donc, c'est là-dessus.
Les idolâtres est une réflexion sur le dessin et l'art des images et le fameux interdit de la représentation dans le judaïsme, préjugé tenace, qu'il faudra un jour réussir à s'en débarrasser. Vous venez d'en parler. Et ce volume, je crois, y contribue grandement, Johann Svar. Vous faites l'avocat du droit à l'image. Avocat, Orer Din, se dit en hébreu, un mot important pour vous et tout en résonance avec le mot exposition, Taharucha, qui vient exactement de la même racine, tout comme le mot « valeur », « erreur ». Je me demande de quelle valeur voulez-vous, dans cette exposition, être l'avocat, Johann Svar?
Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai rien fait. C'est pour ça que je peux dire du bien de cette exposition. Les commissaires d'exposition et les gens d'image ont fait un boulot extraordinaire, en particulier Clémentine de Roudil et Thomas Ragon qui est mon éditeur depuis plus de 30 ans. Donc c'est presque l'exposition de Thomas Ragon qui raconte tous les livres qu'il a tenté de faire avec moi depuis 30 ans. Et quelque chose, Romain Gary, un peu, que ça déprimait un peu, disait « mais personne ne lit jamais rien ». Je suis émerveillé par les gens qui sortent une phrase de l'expo en disant « mais c'est formidable, il a écrit ça ». Ce sont des choses que j'ai écrites parfois depuis 15 ans ou depuis 20 ans, dont personne ne m'a jamais parlé. Et il y a une vertu, je répugne à le dire, mais il y a une vertu de la phrase qu'on met au mur, parce que là, elle est lue, comme un graffiti ou comme une note, alors que dans un ouvrage, je sais pas, ça doit être une autre partie du cerveau, il y a très peu de gens qui vont sortir une phrase d'un ouvrage.
C'est-à-dire que c'est un petit peu comme l'écrin dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un écrin protecteur de la perle, mais peut-être l'exposition est l'écrin qui va justement permettre d'exposer telle ou telle phrase particulièrement. J'ai évoqué cette étymologie hébraïque que je trouve, pour moi, ça a été une révélation que avocat et exposition et valeur, ce soit la même racine. Dans ces petites phrases qui sont accrochées au mur, laquelle retiendriez-vous, Johann Svar?
Je m'en rappelle pas parce que je me souviens plus des phrases qu'ils ont sorties, mais j'aime beaucoup que vous parliez d'avocat et il m'a semblé que quand tout le monde parle des Juifs comme peuple du livre, les gens se disent c'est la littérature, mais c'est le peuple du livre au sens juridique. Et ce qu'on traverse en ce moment, avec le drame du Proche-Orient, avec ici, on a besoin de se redéfinir de manière législative en permanence. Il y a un besoin d'examiner nos vies, dans l'intime et dans le collectif, à l'aune de l'éthique, aurait dit Lévinas, à l'aune de... Et ce questionnement qui est bouleversé par l'actualité, on est tenu de l'avoir. Je vis un moment très intéressant, c'est que j'ai pris la parole après le 7 octobre, et au début, je recevais des insultes, principalement des antisémites, donc ça allait très bien. Depuis peu, je reçois des insultes de tout le monde. Alors ça me fait plaisir, je me dis, tiens, je suis peut-être dans un endroit où, sans le faire exprès... Donc on vit un moment périlleux, si j'étais pas face à un rabbin, j'oserais dire, pour notre âme, mais le législatif et l'âme, il me semble que chez les juifs, c'est assez lié.
Et alors, quelles valeurs vous voulez défendre? Et je pensais, en vous posant la question, que vous rebondiriez sur le fait que nous avons parlé de votre maman, même si c'était en filigrane, mais en disant que le mot exposition, taharucha en hébreu, et avocat, orerdin, c'est quelque chose qui nous permettrait de parler aussi de votre papa qui était avocat.
Bien sûr, c'est une figure très très prégnante chez moi, mon père. Il avait le paradoxe d'être à la fois, puisqu'il est né en Algérie, il était dans l'équipe de Ferhat Abbas, il a quitté l'Algérie en 57, il est à la fois très favorable à l'autodétermination des peuples arabes et très sioniste. Parce que pour lui, c'était le même mouvement. Selon lui, jusqu'au début du XXe siècle, il n'y avait pas de nation, il y avait que des empires. Et dans l'écroulement des empires, on a entendu la voix des peuples, les peuples arabes, les peuples maghrébins, le peuple juif aussi, et qui ont fait ce qu'ils ont pu sur la dépouille des grands empires, l'Empire anglais, l'Empire ottoman. Donc la figure de mon père, qui était à la fois, pour le dire simplement, pro-palestinien et sioniste, Ça m'a structuré. C'est pourquoi, depuis 30 ans, je fais de mon mieux pour dessiner des juifs qui ont l'air arabes, des juifs qui savent pas, des juifs qui adorent le Proche-Orient mais qui viennent tout de même du Maghreb. Donc, je me bagarre avec tout ça. Et la vertu des dessins, la vertu des portraits que je fais, c'est que pendant qu'on dessine, on ferme sa gueule. C'est-à-dire que, moi j'ai l'impression, le malheur que j'ai quand j'allume ma télé tous les soirs, c'est de subir les opinions de tout le monde, qui ont sans doute de la valeur. Mais le temps d'observation, le temps quand je suis allé en Israël récemment pour parler, j'ai la chance de produire de la télévision là-bas, donc j'ai beaucoup de collaborateurs, et arabes, et juifs. J'ai parlé, certains m'ont dit « mais pas ça dans ton livre », enfin j'ai tout de même parlé. J'ai vu des gens perdus, anxieux, pessimistes, désespérés. Aucun n'avait les certitudes, ni dans un camp ni dans l'autre, qu'on entend en France. Donc si j'ai un combat par le dessin, c'est d'obtenir des petites minutes de silence pendant lesquelles on fait taire nos certitudes.
Minor Swing, coécrit et cojoué ici par Stéphane Grappelli et Django Reinhardt, très présent dans vos livres et encore dans les derniers volumes, la musique, Johann Svar, a une importance particulière pour vous. En quel sens ?
Ah, parce que je suis très mauvais musicien. C'est ce que m'avait dit Sampé le jour où je lui ai fait le compliment. Je lui ai dit « Vous êtes le meilleur dessinateur de musiciens que je connaisse ». Il dit « Oui, je mets dans mes dessins de musicien tout le désir que j'ai de savoir jouer de la musique ». Donc il y a ça.
Et dans l'exposition, on a la chance de voir trois de vos instruments. Ça serait bien de pouvoir les décrire et nous dire pourquoi les commissaires de cette exposition ont tenu, à côté des dessins, des photos, des films, mettre vos instruments de musique, Johann Svar.
Ça, ils se sont battus parce que je ne voulais pas les prêter. Je possède deux banjos ukulélé Gibson des années 20, à l'époque où la musique n'était pas amplifiée. Il fallait des banjos pour s'entendre de loin. Et une guitare manouche à taille de guitare classique, donc une petite. faite par Maurice Dupont, mon luthier, et il m'a demandé de venir la décorer avant qu'il la vernisse. Donc j'ai pu gribouiller, je ne sais pas très bien jouer de guitare, mais en revanche je sais gribouiller sur les instruments.
Pourquoi beaucoup de vos personnages sont des musiciens ?
Parce que vraiment ça me fascine, parce que tout ce que j'ai tenté de faire en dessin, c'est une décalque des inventions du jazz. J'essaye de faire un dessin rhapsode, j'essaie de faire un dessin où on se jette dans le vide et on se rattrape aux branches. Donc toutes les inventions de la musique populaire du XXe siècle, j'essaie d'en tenir compte dans mon dessin. Django Reinhardt, pour moi, c'est une inspiration constante. La notion aussi, par rapport au klezmer, par rapport au mahalouf, par rapport à la musique tzigane, la notion de folklore, de maintenir un folklore sans le trahir, mais en le gardant contemporain. Est-ce que c'est pas les questions qu'on se pose en littérature, en études talmudiques? On a tous hérité de quelque chose et on n'aime pas le congélateur. Donc comment faire pour maintenir ça vivant? Moi, je vois très bien, enfin, par rapport aux discussions religieuses qu'on a en permanence, on n'a pas envie de passer pour un passéiste et on n'a pas envie non plus, si on avait Jésus, je dirais, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Je sais aussi, et on a Moïse, c'est pareil, si j'ose dire. Donc on ne sait pas où se mettre. Moi, avec le dessin, je suis pareil. Je ne sais pas où me mettre.
Si j'ai bien compris, vous êtes un jazzman de l'image.
J'aimerais bien.
Nous sommes à 15 jours exactement de la fête de Pessah, la fête juive, fête de la liberté, de la libération et de l'émancipation. Une liberté et une émancipation qui passent par le récit, l'histoire qui se raconte de génération en génération. La transmission est une valeur et vous en avez fait une valeur centrale de votre travail, d'où l'importance fondamentale que vous accordez à l'enseignement. Et je pense de manière paradigmatique à ce que vous dites en ce qui concerne le dessin, que l'important n'est pas d'apprendre le dessin, mais d'apprendre l'histoire de l'art, Johann Svarr. Et c'est ce que vous avez transmis à vos étudiants. Et c'est une phrase véritablement centrale, puisqu'elle réapparaît encore dans votre dernier ouvrage.
Oui, je suis de plus en plus passionné par les sciences humaines. Moi qui ai juré que par la dramaturgie et le romanesque pendant longtemps, il m'apparaît que si on n'a pas un socle historique et journalistique pour parler du réel, c'est comme si on n'avait pas de levier. On va pas pouvoir faire s'envoler son histoire. Donc là, le dernier chat du rabbin, je suis parti d'un événement historique absurde, la marine française qui en 1918 veut continuer la guerre contre la Russie pour se faire rembourser l'emprunt russe dans des bateaux pleins de juifs, d'arabes et de noirs. Voilà. Et c'est tellement absurde. Et ces marins qui ne veulent pas faire cette guerre vont hisser un drapeau rouge, chanter l'international et les bateaux vont repartir en France. Bon. Et il n'y aura pas un seul mort. J'ai trouvé ça formidable. Et cet événement a été oublié. Il a été à l'origine de la création du Parti communiste français, de la création des brigades internationales qui vont aller se battre en Espagne. Si on n'a pas connaissance de ce moment absurde, on perd plein de belles histoires.
L'absurde est quelque chose de très présent chez vous. Il y a une sorte d'éloge de l'absurde et du bizarre dans votre travail. Vous parlez du bizarre comme quelque chose d'essentiel.
Mais bien sûr, je reviens parce que c'est une obsession au Proche-Orient où j'étais il y a vraiment pas longtemps. Quand je dis que j'y ai pas entendu de certitude, c'est que j'ai vu des populations qui étaient prises dans un conflit, qui étaient intensément prises dedans, qui étaient dans une obscurité totale, qui ne savaient pas où ça allait mener, ni militairement, ni diplomatiquement, ni même humainement dans l'avenir de cette région. Et ces moments où tout le monde nous exalte à avoir une certitude, s'il n'y avait pas autant de morts, il y est l'absurde. La raison, c'est pas seulement tuer les autres, c'est accepter la mort de ses propres enfants pour des raisons qui, parfois, qu'on ne parvient pas à saisir. Donc cet égarement, il est très répandu dans l'espèce humaine.
L'enseignement de l'art et l'enseignement de l'histoire d'une science fait que vous dites que quand vous voulez enseigner le dessin, vous voulez l'enseigner comme une science humaine.
Ah oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire ? Alors, vous l'avez un petit peu évoqué, mais préciser cette idée du dessin comme science humaine.
Alors, mon maître Jean-François Debord, à chaque fois que quelqu'un lui disait « je ne sais pas dessiner », il répondait « c'est rien, c'est uniquement une question d'intelligence ». Si on part du principe que le dessin est un langage, bon, vous allez apprendre la grammaire, l'orthographe, ça va pas faire de vous un écrivain, mais au moins vous saurez écrire des phrases. Ben, le dessin, c'est la même chose. Il faut apprendre cette science du dessin, et une fois qu'on la détient, on peut en faire toutes sortes de choses. De mon temps, quand je disais « je veux faire du dessin », on me répondait « ah, du dessin technique ». Ça paraissait sérieux. Bon, mais enfin, le dessin de bande dessinée, Hugo Pratt, il disait, vous savez, on travaille quand même. Donc, il recèle tout de même une petite dimension scientifique.
Et alors, à propos de l'enseignement et de la transmission, j'ai remarqué qu'en ce qui concerne votre exposition, le dossier pédagogique préparé par une équipe du musée est particulièrement réussi, tant par son contenu que son ampleur, qui concerne les classes allant du CM2 à la terminale, en passant par toutes les classes et aussi les classes professionnelles. Quelle est votre espérance, Johann Svarr, au cœur de l'éducation nationale ?
Moi, je suis toujours dans le camp de l'optimisme parce qu'on n'a pas le choix. J'ai eu la chance d'intervenir beaucoup au musée. En particulier, il y a 2-3 semaines, j'ai rencontré 4 classes de lycée pour parler d'antisémitisme. J'y suis allé un peu avec des semelles de plomb parce que c'est jamais le sujet. Bon, et en fait, ça s'est très bien passé. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a souvent beaucoup d'ignorance, qu'il y a... Donc, si mon travail peut aider à ce qu'on cesse de définir le judaïsme, à ce qu'on s'aperçoive que c'est tellement multiple, qu'on est tous tellement paumés, qu'on va pas non plus se mettre, j'allais dire, des étoiles jaunes, mais enfin des étiquettes. Il est vrai que la plupart des jeunes à qui on reproche d'être antisémite, le seul juif qu'ils connaissent, c'est Benjamin Netanyahou, qui n'est pas notre meilleur ambassadeur. Donc, il me semble qu'à créer des rencontres, qu'à expliquer à quel point on est tous fragiles, on est tous perdus, on ne sait jamais quoi dire. Bon, ça crée une empathie. Une phrase très belle d'une camarade artiste, je ne vais pas dire son nom, qui a échappé à une tentative de meurtre il n'y a pas longtemps. Elle me dit, dans tous les pays, il n'y a que des gens qui nous adorent. Malheureusement, il y en a parfois un qui veut nous tuer.
Alors, vous évoquez justement le judaïsme. Et dans cette question de judaïsme, vous parlez, parce que le judaïsme, pour vous, est une expérience existentielle qui est au cœur de votre vie et de votre travail, mais pas n'importe quel judaïsme, vous parlez d'une identité choisie et non d'une identité imposée. Est-ce que c'est une façon de transposer l'histoire de l'art à l'histoire du judaïsme, de ses textes et de sa culture, qu'il faut apprendre avant de pouvoir entendre quelque chose de juste qui concerne cette tradition, Johann Svarr?
Oui, je crois que on doit chacun interroger le narratif de nos parents. Par exemple, moi, mon père, qui était très laïque et très républicain, m'a enseigné que le judaïsme, c'était une religion. Bon, très bien. Mais tant que j'ai pas été capable de découvrir par moi-même que c'était aussi un courant littéraire, que c'était aussi un courant artistique, que c'était aussi, c'est plus compliqué à dire, mais si on se met à considérer les ethnies, bah dans ce cas-là, c'est aussi une réalité ethnique, c'est aussi un peuple, je ne sais pas ce que c'est qu'un peuple, mais c'en est un. Donc on ne va pas parvenir à mettre le doigt dessus, donc c'est intéressant. Si j'en reste à la définition de mon papa, lui, elle lui a suffi pour son existence. Moi, elle ne me convient pas, elle ne me suffit pas, parce que j'ai beau avoir toute l'affection que j'ai pour la tradition religieuse juive, je suis assez peu pratiquant pour qu'on me mette totalement dedans. Donc il faut que je ramasse mon judaïsme ailleurs. Il y a des ouvrages qui nous rattachent à cette tradition, mais qui en même temps vont avec le culturel et qui autorisent... Moi, ça m'intéresse si on peut partager, si on peut le discuter. Je redis, lorsque je suis arrivé à Paris, j'ai reconnecté avec le judaïsme grâce à vos conférences, parce que le monde entier y allait, on ne demandait pas une carte de juif à l'entrée, et les gens repartaient de là en mesurant à quel point, mais finalement, dans sa spécificité, ça ressemble tout de même aussi au travail mystique que font les chrétiens, que font les musulmans, que font les agnostiques qui sont la plus grande communauté de France. Et si c'est dans ce dialogue, moi, ça m'intéresse.
Est-ce que vos lecteurs et les jeunes qui se confrontent à tous ces textes que, de plus en plus, vous intégrez dans votre travail, le vivent justement comme universel? On parle du chat du rabbin, c'est un rabbin qui parle, et les jeunes vont voir le mot rabbin. Est-ce que ces bandes dessinées, par exemple, arrivent à pénétrer dans les cités où dès qu'on dit le mot juif ou le mot rabbin est quelque chose de problématique?
Alors oui, pour de nombreuses raisons. La première, c'est que dès qu'on dit juif, on a l'attention de tout le monde. Donc là, je sais qu'on m'écoute. Et ensuite, pardonnez-moi, je la répète beaucoup, lors de la sortie du premier chat du rabbin, je suis interviewé dans un lycée technique et il y avait 2 jeunes filles maghrébines qui sont venues me voir et qui m'ont dit « on voulait pas lire ton livre de juif, mais finalement ça nous a plu parce qu'on a vu qu'ils sont aussi cons dans les familles juives que dans les familles arabes. » Et là, j'ai eu la révélation du projet de ma vie. C'est René Goscinny disait que la bêtise était la richesse la mieux partagée dans le monde. Si mon travail, c'est la bêtise de chacun, oui, je crois que la haine est beaucoup plus en façade que ce qu'on s'imagine. Je crois que les postures qu'on va voir sur les réseaux sociaux et à la télévision relèvent souvent des rodomontades. Et malgré la violence qui existe, malgré les menaces qui existent, l'immense majorité de nos concitoyens ont envie qu'on discute, y compris de nos faiblesses, y compris de nos doutes. Ce qui m'inquiète en temps de guerre ou en temps de tension, c'est que chacun va renforcer son narratif. Quand Delphine Horviller a l'humanité de dire « il faut être capable de voir la souffrance de l'autre ». Mais moi, j'irais même au-delà. Il faut être capable d'entendre le récit de l'autre. Que la souffrance, c'est facile, personne n'aime la mort. Mais le récit, la manière dont chacun se raconte son exode, sa famille, son errance... Qui on est pour dire ton histoire est fausse? Enfin, on n'est pas tous historiens. C'est l'histoire qu'on s'est racontée. Je vous raconte un détail, comme dirait Jean-Marie Le Pen. J'ai beaucoup d'amis ukrainiens, je les fréquente énormément en ce moment, et pour 1000 raisons, et je parle avec eux de l'histoire des Juifs, parce que ma famille vient de là. Et ils me disent, oh là là, nous les Ukrainiens, on a tellement sauvé de Juifs. Bon, alors c'est vrai qu'ils en ont sauvé quelques-uns, mais enfin pas que. Qui je suis pour leur dire que le narratif que leur a dit leurs parents n'est pas tout à fait exact aux yeux de l'histoire? Donc, moi je suis pour qu'on mange ensemble et qu'on réfléchisse après.
Au risque du révisionnisme, parfois.
Il faut faire la différence, et c'est tout le sens du chat du rabbin, entre l'histoire de nos grands-mères et l'histoire qui relève des sciences sociales. Les récits familiaux, avec leurs mensonges, avec leurs bêtises, avec leurs inexactitudes, ils ont une valeur. Le personnage du Malka des Lions, qui était, paraît-il, un de mes ancêtres, qui aurait giflé le maire anti-juif d'Oran, il me semble qu'il a existé, il me semble qu'il était montreur de lions quelque part vers Oran, mais j'ai vu au moins 5 ou 6 vieilles dames juives qui m'ont dit non, c'était mon ancêtre à moi. Bon, moi je transmets les récits de ma grand-mère et je vais laisser des gens plus sérieux que moi, comme Benjamin Stora, en faire de la vraie histoire ou pas.
J'ai 13 façons de raconter ma vie et je ne sais pas s'il y en a une de vraie ou même si l'une est plus vraie que l'autre, disait Hugo Pratt, un de vos mentors.
Ah oui.
Combien de façons, Johann Svar, avez-vous de raconter votre vie?
Je commence avec la feuille blanche et j'ai envie de la remplir. Et j'apprends, peut-être en vieillissant, la validité de mes élucubrations. J'ai entendu une très belle interview de Tal Brutman, qui est spécialiste de la Shoah. Il a dit, mais pendant longtemps, on considérait que les photos de la Shoah étaient des documents historiques, mais c'était les photos qu'ont pris les nazis. Et il dit, depuis peu de temps, on s'aperçoit que les dessins qu'ont fait d'anciens déportés ont une valeur scientifique supérieure, parce qu'ils sont faits par des victimes qui racontent leur quotidien, mais ils ne contiennent pas davantage d'inexactitude que les photographies qui ont été faites par la propagande nazie. Donc, mes petits dessins, ils ont la validité de ce que je suis, de ma viande, d'un fils d'Ashkenaz et de Séfarade, né en France en 1971, qui est complètement perdu et qui tient le journal de son égarement. Mes cousins, quand j'étais petit et que j'étais complètement paumé, m'ont un jour mis dans les mains le guide des égarés de Maïmonide. Et comme je devais être sacrément prétentieux, j'ai pris ça comme un compliment d'être égaré. Donc depuis, je me noie dedans.
C'est effectivement un compliment. Et je me disais que si on reprenait la trilogie lexicale évoquée plus haut, qui me semble vraiment étonnamment féconde, avocat, valeur et exposition, puisque ce sont les mêmes mots en hébreu, horaire, horaire din, erer et taharucha, de quelle valeur désiriez-vous que cette exposition se fasse l'avocat? C'est une question que j'ai un petit peu déjà posée, mais je vous la repose encore plus précisément, Johann Svar.
Vraiment l'empathie et la gourmandise, le plaisir de se regarder d'abord et de se juger ensuite, c'est très difficile. Et le dessin permet ça, permet le petit silence, mais le repas aussi. Je crois que c'est Lévi-Strauss qui disait dans un repas, on se demande qui on va manger, mais enfin on n'en est pas réduit à cette sauvagerie-là. Dans le dessin, il y a une manière de s'observer, de se désirer sans se dévorer. Je vais dire du mal et d'un rabbin et d'un psychanalyste en même temps. J'ai une amie qui m'a expliqué, très religieuse, très juive, qui m'a expliqué qu'elle voyait un psychanalyste depuis peu et que son psychanalyste lui a dit que quand elle avait des pulsions sexuelles, il valait mieux se retenir et se noyer dans le travail. J'ai dit, écoute, comme rabbin, il est peut-être très bien, mais comme psychanalyste, il mérite d'être radié. Je ne sais pas s'ils ont un conseil de l'ordre. Donc moi, ça me fascine. C'est la manière de se désirer sans se dévorer, puis c'est tout à fait ce que l'époque essaye de faire.
C'est intéressant, votre anecdote, puisque dans votre exposition, il y a une salle spécialement pour les enfants, avec des BD, on peut s'asseoir, on peut lire. Et puis il y a une salle, on est surpris, on arrive à un certain moment, c'est marqué « Salle réservée aux adultes », qui est consacrée à un peintre qui s'appelle Pasquin, et qui est une exposition de vos peintures et de vos dessins érotiques. Quelle est la place de l'érotisme et comment vous le vivez, cet érotisme, à la fois dans votre philosophie et dans vos dessins, Johann Svar?
C'est avant tout le récit. C'était 10 ans avant de faire le film de Gainsbourg, j'ai découvert ce dessinateur et peintre Julius Mordechai Pinkas, qui était un juif bulgare, qui habitait à Paris, qui publiait ses dessins dans un journal allemand, et qui était le chef des fêtes parisiennes, d'une certaine façon, c'est une figure. Bon, ce qui me plaît, c'est la jouissance et l'égarement de ces juifs qui débarquent à Paris et qui découvrent une liberté qui n'existait pas dans leur famille et qui essaient de trouver leur place et qui ont aussi un sens de la provocation. Une grande partie des amis de Pasquin étaient noirs, il adorait aller avec eux dans des mariages de province où personne n'avait jamais vu un noir, ça le plaisait énormément. Et c'est le moment où le monde entier s'est retrouvé à Paris dans une promesse de fraternité. Mon grand-père disait l'antisémitisme s'arrête à l'entrée des chambres d'hôtel, et il y a dans le contact intime l'inverse de ce que dit la société. Je suis toujours frappé dans des sociétés qui affichent leur racisme ou leur homophobie ou leur antisémitisme de voir à quel point, dès qu'on entre dans des chambres d'hôtel, on découvre autre chose. Je sais qu'il y a eu des podcasts et beaucoup d'études récemment sur la sexualité des Israéliens et des Palestiniens, et pour avoir passé du temps là-bas, on découvre que ce qui se vit là aussi dans les chambres d'hôtel est pratiquement, mais presque de rage, presque l'inverse de ce qu'annoncent les télévisions. Donc il y a, avant même de la juger de manière morale, il y a dans la sexualité un papier carbone de ce que la société veut montrer, veut pas dire, avec quoi on se bagarre. Donc pour un dialoguiste, c'est une manière, en deux, trois mots, de résoudre un problème beaucoup plus vaste. C'est à ce titre que ça m'intéresse. Hugo Pratt, pour reparler de lui, lui, il refusait d'emmener Corte Maltese dans un lit. Il disait d'abord, parce que j'ai beaucoup de lectrices, elles vont pas être contentes. Et ensuite, c'est mon ami, je vais pas le montrer tout nu. Moi, je suis beaucoup plus pudique qu'on croit. Quand je montre mes personnages tout nus, c'est parce qu'il me semble que c'est important pour leur caractérisation. Je veux pas abuser de mes personnages. Donc, il y a une question éthique sur la représentation du sexe en bande dessinée, et je m'y confronte. En gros, quand je suis pas à l'aise, je fais pas, comme dans d'autres domaines.
En filigrane de ce que vous venez de dire, on pourrait dire que l'érotisme sauvera le monde.
En tout cas, c'est plus facile de résoudre les problèmes à deux dans une chambre qu'à plusieurs millions aux commandes d'un char. Moi, il me semble que dans l'intimité, on résout beaucoup de choses.
Merci Johann Svar pour ce dialogue enthousiaste que les auditeurs pourront prolonger en découvrant la très belle exposition qui se tient jusqu'au 12 mai au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, accompagné d'un très beau catalogue. Je rappelle aussi la sortie du 12e tome du Chat du Rabbin intitulé « La traversée de la mer Noire » ainsi que le second tome de votre autobiographie « Les idolâtres ». Tous les deux, dans une somptueuse et chatoyante mise en couleur de Brigitte Findakli. Je signale aussi la parution prochaine aux éditions Les Arènes de votre réflexion sur le 7 octobre et après, dans un roman graphique intitulé « Nous vivrons, enquête sur l'avenir des Juifs » et l'apparition du hors-série Le Monde, consacré au Chat du Rabbin. Beaucoup d'actualités éditoriales, mais quel plaisir! Merci encore Johann Svar.
Merci beaucoup.
C'était Talmudique, une émission de Françoise Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Manuel Couturier, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique, Kol Tov, Leitraot, au revoir. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.